Le journal de 7h.
Souleyman Katiwatara.
À la une de cette édition, l'enseignement supérieur se dote d'un centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable. L'infrastructure inaugurée récemment va contribuer à la protection de l'environnement, à la valorisation de la biodiversité et à la production agricole durable. La Côte d'Ivoire poursuit la modernisation de son réseau routier. La route Bandoukou, frontière du Ghana, via le village de Soko, pourrait être bitumée dans les mois à venir. Une délégation de l'Ageroute était sur le terrain afin de sensibiliser les populations sur le projet. L'Égypte accueille aujourd'hui deux sommets africains en urgence portant sur la situation au Soudan et en Libye. Le président Abdel Fattah al-Sissi dirigera ces deux réunions en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. À suivre aussi dans ce journal, la revue des titres des journaux de ce mardi avec Jean-Claude Comé. Il sera suivi de l'invité de la rédaction. Gapiena Désiré Ouattara recevra Arnaud Froger, le responsable Ouest Afrique de Reporters sans frontières, pour parler du rapport 2019 de cette organisation sur la liberté de la presse dans le monde. Bonjour à tous, on est mardi, c'est la fin des festivités autour de la fête de Pâques, un long week-end pour célébrer la plus importante fête du christianisme. Elle commémore, rappelons-le, la résurrection de Jésus que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le troisième jour. Après donc ce week-end de ferveur, la vie a repris son cours et les populations vont pouvoir vaquer à leurs occupations quotidiennes. On va s'intéresser aux activités du Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable. La structure logée à Bingéville, au pôle scientifique et de l'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny, a été inaugurée la semaine dernière par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en présence de la directrice générale de la Banque mondiale. Ce centre a pour vocation de contribuer, entre autres, à la protection de l'environnement, à la valorisation de la biodiversité et à la production agricole durable dans un contexte de changement climatique. Et cela passe par le renforcement des capacités des enseignants-chercheurs, des personnels administratifs et techniques, ainsi que la formation des étudiants. Le ministre Albert Mabry-Touakeus nous situe sur l'importance d'un tel centre pour les pays africains. Il est joint par Soro Adams.
Ce centre d'excellence qui est sous-régional et qui est soutenu par la Banque mondiale consacre ses efforts à toutes les études dans le domaine donc du changement climatique, du développement durable, de l'agriculture pérenne, et nous permet donc de trouver des solutions innovantes qui s'appliquent donc à notre secteur productif, que ce soit le monde de l'agriculture, de la météorologie, des transports, et la visite avec la manager générale de la Banque mondiale nous a permis justement de voir deux présentations, une qui était sur les biopesticides avec une jeune Ivoirienne, et l'autre qui était donc sur la gestion des polluants issus des transports avec une jeune béninoise, deux jeunes dames qui font des thèses sur donc ces sujets. Donc c'est ça la vocation du centre, c'est un centre de recherche-développement, recherche appliquée donc au développement, qui va être utile à l'État, aux populations, mais aussi au secteur privé. Et j'ai été très heureux en tout cas de l'inauguration de ce centre.
Un recensement des entreprises industrielles sera lancé sur toute l'étendue du territoire national le 25 avril, mis en œuvre par la direction générale de l'Institut national de la statistique. Cette opération devrait permettre au gouvernement d'avoir un répertoire national géoréférencé de l'ensemble des entreprises industrielles opérant sur le territoire ivoirien, d'établir la cartographie de ces entreprises et de disposer d'une base de données économiques et financières fiable permettant d'affiner sa politique d'industrialisation. En quoi va consister ce recensement? Quelles sont les entreprises concernées? Quels sont les avantages liés à ce recensement? On écoute la réponse de Kwasi Jean de Dieu, conseiller technique à l'Institut national de la statistique, au micro de Marcel Bonny.
L'INS Côte d'Ivoire a élaboré une classification des activités au niveau de la Côte d'Ivoire. Et tout ce qui concerne l'industrie se retrouve au niveau de quatre sections. Les sections B, qu'on appelle les activités extractives. La section C, qu'on appelle les activités de fabrication et de transformation. La section D, qu'on appelle la production et distribution d'électricité et d'eau. Et puis la section E, production et distribution d'eau, assainissement, traitement des déchets et des pollutions. Voici les quatre sections qui constituent ce qu'on appelle le pôle industriel. En dehors de ces quatre sections, toute autre entreprise qui exerce une activité ne rentre pas dans notre entreprise. Le recensement va permettre au gouvernement d'avoir un répertoire national géoréférencé de l'ensemble des entreprises industrielles qui exercent sur le territoire national. Et le gouvernement va avoir également une cartographie de toutes ces entreprises et va disposer d'une base de données économiques et financières qui va lui permettre vraiment de mieux affiner la politique d'industrialisation. Aujourd'hui, dans la vision nouvelle du développement de la Côte d'Ivoire, le gouvernement veut bâtir une économie qui est fondée sur l'industrialisation, ce qu'on appelle la transformation structurelle de l'économie. Et donc, il revient au gouvernement de disposer d'informations fiables sur ce secteur-là.
Retour sur le dialogue national sur le financement de la santé tenu à Abidjan du 15 au 18 avril dernier. L'événement a réuni les acteurs gouvernementaux ainsi que les professionnels du secteur de la santé, mais aussi tous les partenaires financiers et techniques. La directrice régionale de l'OMS Afrique présente à cet important événement s'est prononcée sur les réformes en cours dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire, notamment la CEMU qui selon elle a le potentiel d'améliorer grandement l'accès aux soins de santé. On écoute le docteur Rebecca Mouetin dans des propos recueillis par Jean-Claude Mabia.
Les défis sont certes importants, mais ils ne sont pas insurmontables. Surtout, ils sont en effet des opportunités. Des opportunités pour le développement durable, pour le bien-être des populations et même pour consolider une nation. Aussi, l'OMS vous félicite pour les engagements que vous prenez, pour les réformes entreprises et pour celles en cours. Notamment, nous sommes convaincus avec vous que la CMU a le potentiel d'améliorer grandement l'accès aux soins. Cette réforme majeur ira adéquatement de pair avec le renforcement du système de la santé publique, non seulement dans son volet investissement, mais aussi sous l'ensemble de ses piliers. C'est grâce au leadership dont vous avez fait preuve en convoquant la présente réunion que l'OMS peut témoigner sa solidarité avec votre gouvernement. L'OMS, par ma voix, vous fait donc part aujourd'hui, plus que jamais, de notre engagement à accompagner le pays dans l'ambitieux programme visant à accroître et à rendre plus efficace la dépense publique de santé pour atteindre la couverture santé universelle en 2030.
Longue de 11 km, la route Bondoukou frontière Ghana via le village de Soko pourrait être bitumée dans les mois à venir. C'est ce qui ressort de la mission de reconnaissance que vient d'effectuer une délégation du PTUA, le projet de transport urbain d'Abidjan, structure liée à l'Ageroute, l'agence de gestion des routes. La délégation a multiplié les rencontres avec les autorités locales et les populations de Soko et de Bondoukou en vue de la mobilisation de tous autour de ce projet. Correspondance Émile Yao.
Ouattara Yeneferé Francis, ingénieur des travaux publics chargé de la réalisation des infrastructures routières sur le projet PTUA, projet de transport urbain d'Abidjan, donne une idée des travaux à réaliser à Bondoukou dans le cadre de ce projet.
Les travaux vont consister en la réalisation d'une route définitive, notamment la voie principale qui relie l'état de Côte d'Ivoire au Ghana à partir de Bondoukou. C'est une voie de deux fois une voie bitumée qui fait 11 km, qui partira donc de Bondoukou en passant par Soko jusqu'à la frontière du Ghana avec de l'éclairage public et une signalisation routière garantie et le drainage nécessaire. Le coût total de ce projet, y compris les activités connexes, est estimé à 19 milliards, financé par l'État de Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement et également par le FAD, Fonds africain de développement.
Diverses activités seraient liées à ce projet, indique également Amon Koffi, chef d'unité aménagement connexe et appui institutionnel au sein du PTUA.
Le projet est à deux phases. Il y a l'autoroute de Bondoukou-Soko avec des aménagements connexes et projets intégrés. C'est une douzaine d'activités que nous réalisons en faveur des populations de Soko et des jeunes de Bondoukou. Nous allons organiser et équiper les femmes et les jeunes de Bondoukou à la transformation du manioc.
À Bondoukou, depuis le lundi 15 avril dernier, la délégation du PTUA multiplie les rencontres aussi bien à Soko qu'à Bondoukou en vue de la mobilisation de tous autour de ce projet. Émile Yao, Bondoukou, Radio de la Paix.
Les populations de la sous-préfecture de Ravière dans le département de Didievi viennent de bénéficier de deux infrastructures majeures. Il s'agit d'un centre polyvalent et d'une unité de transformation du manioc. Ces infrastructures ont été remises à la faveur du week-end pascal. Témoin pour la radio de la paix, Radi Razak Wilfried.
Première infrastructure réceptionnée, le centre polyvalent, dont la direction générale des hydrocarbures, Kwaku Dongui, l'un des sous-directeurs, en a indiqué les caractéristiques.
Un bâtiment qui comporte 300 places à l'intérieur et 200 places assises à l'extérieur. Une cabine technique, salle multimédia, qui peut comporter jusqu'à une trentaine d'ordinateurs.
Pour Kwadio Séraphin, le président de la Mutuelle du Développement de Ravière, c'est un autre pas dans la modernité.
On pourra, comme à Abidjan ou dans les autres grandes villes du pays, apprendre ici les outils informatiques, à surfer, à naviguer. Et vu la capacité, on aura l'occasion, lors de nos rencontres, de nous réunir en grand nombre.
L'autre ouvrage, d'un montant de 110 millions de francs CFA, est une action de la Loterie Nationale. Kwasi Roger de cette structure a placé ce geste dans sa mission sociale.
La mission sociale nous engage à investir dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la culture. La direction générale et le personnel ne ménage aucun effort pour être à la hauteur des attentes sociales dans la droite ligne de la stratégie gouvernementale en la matière.
Au nom des bénéficiaires, Yao Afoué Monique, la présidente des femmes de Ravière, a traduit sa reconnaissance non sans plaider.
Le manioc, ça ne paye pas à bon prix. Moi, j'ai dit, mais c'est l'usine. Ils n'ont qu'à nous chercher des clients, des bons clients. On peut faire la quelque pour envoyer au pays étranger.
Signalons qu'à cette occasion, le collège moderne de Ravière a été baptisé collège moderne Aoussou Jeannot du nom du président du Sénat de Côte d'Ivoire, cadre de la localité. De retour de Ravière, Didievi, Radi Razak Wilfried, la radio de la paix.
Dans le cadre du programme régional de facilitation du transit routier, la Commission de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, et de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, un atelier a été organisé à Korogo. Les travaux de cette rencontre ont porté sur le thème « Validation des rapports d'études d'avant-projet, sommaire et impact environnemental et social des postes de contrôle juxtaposés ». L'atelier a réuni les experts des ministères des Transports, des Infrastructures, de l'Environnement et de l'Administration des douanes de trois pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Marcel Bonny.
À travers ce projet de poste de contrôle juxtaposé, il s'agit de passer à la phase pratique et concrète de l'intégration sous-régionale. Mahama Sanusi Amadou, directeur des infrastructures à la Commission de l'Union économique monétaire ouest-africaine, nous en dit un peu plus.
Les postes de contrôle juxtaposé sont des infrastructures très complexes parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et de parties prenantes. Avant le PCJ, les administrations frontalières déjà avaient leurs propres bâtiments, avaient leurs propres équipements. Maintenant, il s'agit de les regrouper pour que les formalités soient faites en même temps. Donc, permettre d'atteindre le but recherché, c'est-à-dire améliorer la facilitation du transport et du transit entre les États.
Une facilitation assortie d'un impact développé par le colonel Kamagaté Ibrahima, directeur régional des douanes à Korogo.
En un seul lieu, nous pourrons faire des vérifications concomitantes. Cela constituerait un gain de temps pour les opérateurs économiques, pour l'administration elle-même et surtout, cela pourrait contribuer à lutter efficacement contre la fraude. Et qui dit lutter contre la fraude augmente indirectement les recettes de l'État à la frontière.
Ce qui n'exclut pas un droit de regard, nous explique Koulibaly Adama Nibizana, président de l'Observatoire de la fluidité des transports.
On est d'accord qu'il existe des PCJ entre les différents États, mais il y aura quand même un contrôle. Ce ne sera pas vraiment pour embêter les populations d'un côté ou de l'autre. Il y aura des observations pour recaler certaines choses.
Notons que ce poste de contrôle juxtaposé concerne les frontières Côte d'Ivoire-Mali et Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Marcel Bonny, Korogo, la radio de la paix.
L'Égypte accueille aujourd'hui deux sommets africains en urgence portant sur la situation au Soudan et en Libye. Le président Abdel Fattah al-Sissi dirigera ces deux réunions en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Le premier sommet portera sur la situation au Soudan où la contestation populaire se poursuit malgré la destitution du président Omar el-Béchir par l'armée. Le second sommet portera sur la situation en Libye où le chef de l'armée nationale, le maréchal Ralph Khalifa Haftar a lancé depuis 3 semaines une vaste offensive contre Tripoli, tenue par le gouvernement d'Union nationale soutenu par la communauté internationale. Les sommets réuniront les présidents d'Afrique du Sud, du Tchad, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, de Djibouti et de Somalie, ainsi que de hauts responsables éthiopiens, sud-soudanais et le président de la Commission de l'Union africaine. Retour en Côte d'Ivoire pour un tour d'horizon de l'actualité à travers les journaux. La revue des titres est assurée par Jean-Claude Comé. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Katia Souleymane, bonjour à tous. Écho du week-end Pascal, les propos de certains acteurs politiques, ainsi se résument les unes des confrères de la presse écrite ce matin. Célébration de la fête de la Pâque, fortune diverse pour une fête, constate le patriote qui retient l'appel de Monseigneur Coutois, l'archevêque d'Abidjan, un appel précisé à la une de Nouveau Réveil, ouvrez les guillemets, les gens ont soif et faim de justice, d'amour et de réconciliation, fermez les guillemets. Pâques 2019, message poignant de Monseigneur Coutois aux Ivoiriens, commente l'Inter, quand son binôme du groupe Olympe se désole de ce week-end pascal dramatique avec 16 morts et des maquis brûlés. Le mandat se fait l'écho de l'ambiance de cette fête à Yamoussoukro. Toumoudié Didievi explique ce que les Fassis, entendez les forces armées de Côte d'Ivoire, ont fait dans le grand centre. LG Info qui parle de veillée pascal mouvementée à Boaké signale que des hommes en armes font une descente musclée dans un village et perquisitionne plusieurs maisons, selon le quotidien d'Abidjan. Journal qui s'intéresse aussi à la sortie ce week-end de l'ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro à Dabakala. Un meeting à Dabakala, Soro dit ses 4 vérités à Ouattara et estime l'Inter. Pour Soir Info, celui-ci prépare une importante décision. Quand Génération Nouvelle affirme que l'ex-président de l'Assemblée nationale déroute le RHDP dans le Nord par sa proximité et ses solutions concrètes. Mais ce n'est pas l'avis du patriote qui croit plutôt que Soro est en balade d'intoxication dans le Nord et de conclure rien que de la démagogie. Du RHDP, le mandat et le rassemblement parlent. Pour le premier, constater que ce parti fait corps avec les populations à l'occasion de la Pakinou, quand le second parle d'Amédée Kouakou et d'Assil Gueye, de cadres de ce parti. Le Nouveau Réveil également se fait l'écho des propos des cadres du PDCI, à commencer par son président Raycon Abédié, mais aussi de Jean-Luc Billon et de Maurice Kakou Djikawé. Le temps fait de même en consacrant sa une à Arsouadou, secrétaire général de l'aile dissidente du Front populaire ivoirien, qui indique qu'ils seront bel et bien aux élections de 2020. Réconciliation, réforme de la CEI, présidentielle de 2020, Arsouadou dans tous ses états, constate le confrère. Autre journal, autre acteur politique de ce parti, Afinguessan, qui à propos de la crise au FPI se déchaîne encore, écrit l'Inter. Et puis c'est l'expression qui l'annonce, institution de Bretton Woods, la visite du Premier ministre Ghosn porte ses fruits, la Banque mondiale décaisse 242 milliards de francs CFA.
Et on retrouve Jean-Claude Comé dans notre édition de 8 heures. La Côte d'Ivoire a enregistré moins d'atteintes à la liberté de la presse et a gagné ainsi 11 places dans le rapport de Reporters sans frontières 2019 sur la liberté de la presse. L'invité de la rédaction de Radio de la Paix, c'est Arnaud Roger, le responsable Ouest-Afrique de Reporters sans frontières. Il répond aux questions de Gapienan Désiré Ouattara.
Monsieur Arnaud Froger, bonjour.
Bonjour.
Dans le dernier rapport qui vient d'être publié par Reporters sans frontières, la Côte d'Ivoire a fait un bond significatif en avant avec 11 places. Quel commentaire ?
La Côte d'Ivoire a effectivement gagné 11 places. C'est la traduction d'abord d'une situation politique qui est un petit peu plus apaisée et qui a donc nécessairement moins de conséquences sur la liberté de la presse et sur l'exercice de la profession de journaliste en Côte d'Ivoire. C'est aussi la traduction qu'au cours de l'année 2018, nous n'avons pas répertorié à RSF de journalistes arrêtés arbitrairement en Côte d'Ivoire, comme ce fut le cas l'année précédente, en 2017, où plusieurs journalistes avaient été arrêtés en marge des mutineries. On leur avait notamment demandé de révéler leurs sources, ce qui expliquait l'absence de progrès de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, finalement, à la faveur d'un contexte politique qui est un petit peu plus apaisé, avec des arrestations de journalistes qui ont pris fin, en tout cas pour l'année 2018, a donc progressé de 11 places au classement que nous venons de publier.
Toutefois, RSF reste quelque peu critique quant à certains points, dont celui de la libéralisation promise du secteur de l'audiovisuel, qui, selon votre rapport, se fait toujours attendre.
Tout à fait. Le fait d'avoir progressé de 11 places ne signifie en aucun cas qu'il n'y a plus de challenge pour la Côte d'Ivoire et qu'il n'y a plus de défi. Il y en a deux d'importance qui nous semblent à souligner. D'abord, comme vous l'évoquiez, effectivement, le fait de consacrer enfin l'ouverture du marché audiovisuel et de permettre à de nouveaux opérateurs de produire de l'information à la télévision en Côte d'Ivoire. Il est tout à fait anachronique qu'en 2019, la seule télé nationale qui soit implantée en Côte d'Ivoire, ce soit la radio-télévision publique d'État, la RTI. Il faut qu'il y ait des opérateurs privés de manière à ce qu'il y ait une pluralité des opinions qui puissent s'exprimer. D'ailleurs, à ce titre, je profite pour préciser que pour l'instant, les appels d'offres qui ont été passés ont été remportés par des acteurs quasi exclusivement très proches du pouvoir en place. Mais néanmoins, la concrétisation du pluralisme médiatique et de l'ouverture du secteur de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire est une nécessité et on appelle évidemment les autorités ivoiriennes à accélérer ce processus. C'est nécessaire pour le débat public en Côte d'Ivoire. Le deuxième enjeu très important pour les autorités ivoiriennes, c'est de faire avancer l'enquête sur la disparition du journaliste franco-canadien Guy-André Kiefer, puisque cette enquête est quasiment à l'arrêt, au point mort, et ce, malgré les promesses répétées des autorités ivoiriennes à plusieurs reprises au cours de ces dernières années.
Avec le bond en avant de 11 places, la question de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire annonce-t-elle de réels espoirs pour une presse plus libre et plus responsable dans un climat sociopolitique encore quelque peu tendu dans ce pays qui sort des crises?
Ce sera aux autorités de faire en sorte que ce bond en avant puisse être confirmé et puisse se concrétiser par de nouvelles avancées pour les journalistes et les médias en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs chantiers à mener. Il y a relancer, comme je le disais, l'enquête sur la disparition du journaliste Guy-André Kiefer, consacrer l'ouverture du marché de l'audiovisuel. On pourrait penser aussi à réviser certaines dispositions du nouveau code de la communication qui a été adopté et qui contient des dispositions qui sont encore un peu liberticides, comme le maintien d'un délit d'offense au chef de l'État avec des sanctions qui sont très lourdes. On pourrait aussi penser à un travail de sensibilisation qui doit être poursuivi vis-à-vis des forces de l'ordre, puisque si RSS n'a pas enregistré de journalistes arrêtés au cours de l'année 2018 en Côte d'Ivoire, il y a tout de même eu des journalistes agressés par les forces de l'ordre en marge de manifestations. Donc ça, c'est un travail qui a déjà été entamé, mais qu'il faut poursuivre en Côte d'Ivoire. Et puis, je terminerai par dire que la liberté de la presse en Côte d'Ivoire reste fragile malgré tout. Elle reste très fortement dépendante du contexte socio-politique que vous évoquiez. Il n'est pas à exclure, effectivement, que si de nouvelles tensions devaient survenir, eh bien les journalistes puissent en faire les frais, d'où la nécessité d'avancer sur les chantiers que j'ai déjà évoqués précédemment pour consolider les acquis de la Côte d'Ivoire en matière de liberté de la presse.
Arnaud Froger, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes...
Je suis le responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières.
Voilà, Arnaud Froger répondait aux questions de Gapiena Désiré Ouattara. C'est sur cet entretien que nous refermons ce 7-12, mais avant de nous séparer, le rappel des principaux titres. L'enseignement supérieur se dote d'un centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable. L'infrastructure inaugurée récemment va contribuer à la protection de l'environnement, à la valorisation de la biodiversité et à la production agricole durable. La Côte d'Ivoire poursuit la modernisation de son réseau routier. La route Bondoukou frontière Ghana via le village de Soko pourrait être bitumée dans les mois à venir. Une délégation de la Géroute était sur le terrain afin de sensibiliser les populations sur ce projet. Et puis l'Égypte accueille aujourd'hui deux sommets africains en urgence portant sur la situation au Soudan et en Libye. Le président Abdel Fattah al-Sissi dirigera ces deux réunions en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine.